We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
Les Impertinentes, c'est votre nouvelle émission de discussion autour de sujets qui touchent notre société. Quatre femmes aux langues bien pendues, Maï, Aurélie, Steph et Aïssatou, qui veulent faire entendre leur voix, donner la parole à des femmes et des hommes experts dans le but de se questionner. Audacieuses, cavalières, effrontées, indiscrètes, retrouvez-les tous les derniers samedis du mois de 13h à 14h sur Prune 92 FM.
Bonjour à toutes et tous, je suis Aïssatou, votre host du jour, et je vous souhaite la bienvenue pour cette quatrième émission des Impertinentes. Nous sommes le samedi 30 janvier, il est 13h et on est parti pour chiller ensemble pendant une heure. Alors avant d'évoquer notre sujet du jour et de laisser la parole à mes co-hosts, je vous souhaite très sincèrement une meilleure année 2021 à toutes et tous. Meilleure année parce que bonne, c'est pas encore sûr vu comment ça se profile. Mais meilleur parce que ça donne de l'espoir et qu'aujourd'hui, je pense que nous en avons toutes et tous besoin. En parlant de ça, salut les filles, qu'est-ce que vous souhaitez à titre personnel à l'ensemble de nos auditrices et auditeurs ?
Hello ! Alors, je pourrais basiquement vous souhaiter le meilleur, mais je vais plutôt vous souhaiter de trouver en vous le courage, la volonté, la motivation, la niaque même, pour créer les conditions pour que le meilleur se réalise pour vous et pour les autres. Belle année à vous !
Merci Steph. Aurélie ?
Salut tout le monde. Je souhaite également le meilleur pour cette année, de rester toujours focus sur soi, de prendre soin de soi et de ses proches et surtout de profiter de chaque instant, chaque moment partagé. Voilà.
Merci Aurélie. Salut Maï. Et toi alors ?
Bonjour à tous. Alors on le disait chaque année, sans avoir conscience à quel point ça pouvait être important. Donc je vous souhaite sincèrement la santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès dans vos projets.
Merci beaucoup les filles pour vos souhaits. Alors en espérant vraiment, vraiment, vraiment que le maximum d'entre eux se réalisent. Et d'ailleurs, en parlant de souhaits, et puisqu'il paraît que la parole est créatrice, on va vous parler aujourd'hui d'un sujet hyper croustillant. Alors money, tralis, moula, argent, bref, quelle que soit la langue, il a une signification universelle. Alors, vous l'avez compris, pour cet épisode de rentrée, on a choisi de vous parler de money. Mais avant de commencer, et pour vous mettre d'entrée de jeu dans le mood, on vous propose le légendaire « Bitch, better have my money » de Rihanna.
Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want it. Bitch better have my. Bitch better have my. Bitch better have my money. Sign up to Rihanna.
Forgot.
Les impertinentes, car elles ont toutes leur mot à dire. Prune 92 FM.
Vous êtes de retour avec les impertinentes et aujourd'hui, si ça n'était pas clair, on a choisi de vous parler d'argent. Tantôt adulé, tantôt rejeté, l'argent cristallise souvent de nombreuses tensions, rêves, déceptions autour de lui. Comme écrit par Christian Junot, économiste de formation et ex-banquier suisse, dans son livre « Ce que l'argent dit de vous », publié aux éditions Erol, il mentionne que l'argent est le thème tabou par excellence. En parler revient à dévoiler une part de notre intimité et met mal à l'aise la plupart d'entre nous. Comme il paraît qu'ici on est un petit peu aventurière, on va quand même se lancer. Allez, c'est parti les filles, mission 4, notre rapport à l'argent. Alors si je vous dis argent, spontanément, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelle est votre représentation et rapport à l'argent, Maï?
Alors quand je pense à l'argent, moi je pense à la sécurité, à la liberté, tout simplement la possibilité d'acheter tout ce dont j'ai envie. Voilà, j'ai grandi dans un environnement où on n'avait pas de problème d'argent grâce à mon papa qui gagnait très bien sa vie. Mais on nous disait toujours de faire attention. Après, faire attention à quoi? On n'a jamais su parce que on n'en parlait jamais. Donc, il fallait faire attention, il fallait être raisonnable, pas trop dépenser, penser au lendemain. Et donc, il y avait ce sentiment de sécurité et c'est quelque chose qui est resté en moi. Donc voilà, il faut aussi savoir que notre rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est influencé par notre environnement, l'histoire de notre famille avec l'argent. Et parfois même, ça peut remonter à beaucoup plus loin, donc notre arbre généalogique. Plus de ça, à ça, il faut rajouter aussi notre propre expérience personnelle liée à l'argent. Par exemple, au sein de ma propre fratrie, nous avons les mêmes parents. On a vécu plus ou moins la même chose. On a le même contexte, on vient du même contexte socio-économique. Et pourtant, chacun d'entre nous, nous n'avons pas les mêmes rapports à l'argent dû à nos différentes expériences, la perception du monde dans lequel on vit. Et tout ça peut avoir une influence à notre rapport à l'argent.
Très bien, hyper intéressant. Merci beaucoup, May. Alors Aurélie, si je te dis argent, qu'est-ce qui te vient en tête spontanément?
Alors moi, tout de suite, c'est tabou. L'argent, c'est tabou. Il ne faut pas en parler, mais on peut le montrer, comme s'acheter des biens, des services. Donc c'est assez un peu contradictoire. Et pour moi, c'est vraiment... Alors, c'est devenu pendant un moment une gestion, en fait, de tenir les comptes, etc. Mais ça, c'était vraiment une déformation professionnelle, parce que je le faisais au quotidien au travail, mais pas spécialement pour moi. Mais après aussi, c'est... Enfin, moi, du coup, j'ai un bon rapport avec l'argent. Je me suis réconciliée. Je sais que je dépense, que j'ai le shopping ou des choses comme ça. Je suis assez généreuse. Donc, du coup, aussi, ça peut être très... ça peut être synonyme aussi de bonheur quand on arrive, en fait, à juste s'ouvrir quelques rêves. Et puis, je rejoins également Maï sur le plan que... C'est souvent lié à l'histoire de notre famille. Moi, je viens d'un milieu plutôt modeste. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des moments où il fallait vraiment faire attention. Mais quand, du coup, il y en avait, ça ne nous empêchait pas, en fait, de pouvoir bien, comment dire, de profiter. Et en fait, c'est juste qu'il faut, voilà, faut faire attention. Et c'est resté un peu comme ça pendant longtemps. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, donc, j'ai travaillé aussi un peu là-dessus, donc avec l'expérience professionnelle, quand on se stabilise dans la vie aussi personnelle. Donc, ça permet aussi d'avoir, de grandir, d'avoir un autre rapport avec l'argent. Et en plus, maintenant, je suis devenue maman. Donc, j'espère que je vais pouvoir transmettre des bonnes bases.
Il y a un gros travail de transmission. Et j'aime beaucoup quand tu as dit que tu t'étais réconciliée avec ça. Donc,
On était fâchés avant.
Tu nous en parleras un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, Steph, si je te dis argent, qu'est-ce qui te vient en tête?
Alors moi, je pense, ça me fait penser à la chanson là, de Rihanna, « Bitch, better have my money ». Je pense à des billets, des liens. Non, plus sérieusement, pour aller au-delà de l'image, dans moi, ma représentation de l'argent, c'est principalement du plaisir. Moi, l'argent, ça permet de s'acheter des biens et des services pour soi ou les autres et d'en jouir, en fait. Donc, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et une autre représentation importante pour moi, c'est la sécurité. Comme dit l'expression assez commune, se mettre à l'abri financièrement. Quand on cherche la définition à l'abri, on trouve ça sur le site de l'internaute, à couvert, à l'écart, caché, hors d'atteinte, à l'ombre, immunisé, bref. Donc voilà, c'est aussi synonyme de sécurité.
Merci beaucoup et merci beaucoup pour ces premiers apports. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on projette tous, que ce soit positif ou pas, des choses sur l'argent. Et ma deuxième question pour vous maintenant, c'est à votre avis, comment est-ce que nos cultures d'origine influencent notre rapport à l'argent? Aurélie ?
Alors, donc, moi, je vais remettre dans un contexte. Donc, moi, je suis française d'origine antillaise. Donc, l'argent, c'est lié quand même à cette culture un peu judéo-chrétienne. Donc, ça reste très tabou. Il y a les croyances catholiques, chrétiennes qui sont là-dedans. Et la plupart du temps, en fait, cette éducation financière, on ne nous l'apprend pas. Enfin, en tout cas, bon, on ne l'a pas apprise. et du coup, il y a un mauvais rapport, en fait, avec l'argent. Donc, l'argent, c'est mal, c'est le diable, c'est sale. Et du coup, il y a toujours cette tendance. Ça doit venir, comme disait Maï au début, un peu de nos ancêtres, en fait. Donc, ouais. Ça s'est transmis de génération en génération. Il y a c'est l'argent qui rend mauvais, qui corrompt les hommes. Et puis, il y a aussi une très forte image qui est véhiculée, en fait, du coup, à travers la Bible, Jésus, la pauvreté, il faut donner. Donc, du coup, on va aller au paradis. Enfin, des choses un peu comme ça. Donc, c'est très limitant. Il y a des croyances limitantes, des injonctions comme ça. Donc, du coup, il y a aussi un manque de projection. Donc, c'est assez difficile de pouvoir se projeter. Si on a juste ce rapport de il faut que j'ai un bon travail pour bien gagner ma vie, et puis juste ce truc un peu métro-boulot-dodo, et qu'il n'y a pas de rêve ou de vraie projection, c'est compliqué. Trop parler d'argent, on peut passer pour une personne vénale qui aime l'argent, donc c'est pas très bien vu. Et ne pas en parler et être un peu plus écureuil, compter ses sous, on passe pour un radin. Donc quoi qu'il arrive, dans les deux axes, en fait, c'est pas très bien.
Ça peut être compliqué. Ouais.
Ça peut être très compliqué, ouais.
Ok. Là, c'est très intéressant le parallèle que tu viens de faire justement entre argent et religion. Steph, toi, si je te dis culture et argent, qu'est-ce que tu m'en dis ?
J'en dis déjà que j'aime beaucoup l'analyse que tu as faite, Aurélie, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur la fin. C'est compliqué, il y a une ambivalence, tu en parles trop ou quoi, tu peux passer pour quelqu'un de vénal, ou même sans en parler, ou tu montres un peu, tu peux passer pour quelqu'un de vénal. Et quand tu fais hyper attention, tu peux passer un peu pour le gros crevard. Enfin, c'est vraiment déroutant. En tout cas, pour ma part, pour remettre aussi un peu dans le contexte, moi, j'ai une double culture, voire triple. Enfin, mon père est donc d'origine congolaise, ma mère camerounaise, et j'ai la culture française, puisque je suis donc née et je vis en France. Donc, on va dire que je vais mettre le Congo et le Cameroun ensemble. Et comme les cultures sont assez similaires, et puis sont voisins. Donc, en tout cas, de ce côté-là, au niveau de la culture, c'est synonyme. L'argent, tout ça, c'est vraiment synonyme de plaisir, de joie, de bonheur. Quand il y a l'argent, on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres. Et par contre, de ce côté-là, ça vire facilement à l'excès, souvent. Je viens d'une famille modeste également, et parfois, plus on en avait, plus on le dépensait. Et ça pouvait être assez déconcertant pour moi quand on arrivait assez vite. Enfin, je me rendais assez compte assez vite, parce que ça pouvait parfois être Byzance. Puis ensuite, on traversait une période assez compliquée. Et moi, je me disais, donc j'étais toujours méfiante quand c'était Byzance, parce que je me disais...
La disette arrive après.
Oui, donc ce côté excessif, moi ça me fait penser, il y a un attrait à la culture congolaise aussi. Le courant que certains connaissent peut-être, la sapologie et les sapeurs. Donc petit récap, la SAP, donc l'acronyme, c'est Société des ambianceurs et personnes élégantes.
J'adore déjà le nom, j'adore.
Donc vous pouvez aussi écouter le son de Maître Gims, saper comme jamais pour refaire votre culture, si jamais. Ou regarder le reportage de Canal+, qui était passé dernièrement avec Antoine Decaune. En tout cas, la SAP, juste petite histoire, c'est un mouvement en fait culturel de société originaire des deux Congos. Ce courant en fait est comparé au dandisme et ses adeptes. Et en fait, pour la petite histoire, c'est mal connu. Les sapeurs en fait revendiquent plus ou moins ce sont des dandys en mode européen depuis le 19e siècle. Et en fait, il s'agit d'une façon d'imiter le colonisateur en acceptant son style vestimentaire et ses manières pour être plus intégré à leur sphère, mais aussi pour les parodier. La SAP serait ça s'est popularisé dans les années 60 à Brazzaville et Kinshasa avant de se développer dans la diaspora congolaise en France et en Belgique, donc beaucoup à Paris, à Bruxelles. Et en fait, elle revêt également une dimension politique, parce qu'après l'indépendance du Congo belge, Mobutu, le dictateur Mobutu, affiche une volonté politique d'authenticité, donc il a viré tous ses costumes et ses habits occidentaux. Donc il y a aussi ça, c'était une prohibition coloniale qui a été enlevée en 90. Bref, vous pouvez aussi retrouver tous ces petits sapeurs qui sont réappropriés tout ça dans les quartiers de Paris, toute la diaspora qui s'est réfugiée dans les quartiers parisiens du côté de Château Rouge dans le 18e, si ça vous parle, big up.
Il faut aller voir, ah oui.
Donc voilà, bref, c'était juste la petite minute historique, mais pour vous dire que cet excès-là, ces sapeurs, en fait, c'est souvent des gens qui sont très, très modestes et qui dépensent des sommes astronomiques pour leur vestiaire. Ils sont dans l'excès. Ça me fait penser... Bon, attention, hein, c'est... mon père n'est pas un sapeur, mais c'est juste pour vous... Voilà, ça me fait penser à cette culture, moi, qui... Ouais, dépenser trop, parfois. Mais bon, après, d'un autre côté, j'ai le modèle français, hein, de par mon cadre social, environnemental, l'école, les amis, les voisins. Et la culture française, bah, je trouve qu'elle est plus discrète, plus mesurée avec l'argent. On évite d'être show-off et on est dans la discrétion, voire l'opacité même. Et tout ça, c'est dans la mesure, quoi. Et je pense qu'en fait, je suis un bon mix des deux.
Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Et merci pour ce petit insight dans la culture congolaise. La SAP, c'est un truc génial. Et justement, c'est très intéressant de voir comment est-ce que ça peut aussi agir sur... notre rapport à l'argent.
Oui, c'est super intéressant. D'ailleurs, je ne savais pas que ça avait un aspect politique, un peu révolutionnaire comme ça. Donc, tu m'apprends quelque chose. Je suis très contente.
Et toi, Maï, justement, qui a un environnement culturel hyper riche, dis-nous tout.
Pour moi, oui, effectivement, l'argent, la culture peut avoir une influence sur l'argent. Je pense qu'aussi l'environnement, le contexte familial, comme on a dit tout à l'heure, même nos ancêtres, en fait, peuvent avoir une influence par rapport à notre rapport sur l'argent. J'aime souvent faire la comparaison des deux cultures que j'ai eues, donc à savoir la culture sénégalaise et bangladaise. Au Bangladesh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un des pays les plus pauvres du monde. L'argent n'est pas tabou. C'est quelque chose qui fait partie de la société. On n'a aucun mal à se dire combien on gagne. Et d'ailleurs, je dirais que c'est très important de parler d'argent, car ça nous permet de positionner les gens et de se positionner. Quand tu as de l'argent, tu n'es pas considéré de la même manière. L'argent représente le pouvoir et ça te donne un certain respect. Au Sénégal, en revanche, j'ai remarqué que les gens parlaient assez facilement de l'argent. En tout cas, ça faisait partie aussi de la société. Il n'y a pas de honte à demander de l'argent. D'ailleurs, si tu n'en donnes pas...
T'es un radin
et c'est très, très, très mal vu.
Tu veux nous dire comment on dit radin en Wolof, d'ailleurs?
Naï, oui, c'est ça. Hey, tu vois, tu commences à...
Ça commence à rentrer,
mais c'est ça, naï. Et voilà, c'est pas bien vu. Je sais que dans les baptêmes, dans les fêtes, quand tu es invité chez les gens ou quand tu vas chez les gens, il faut que tu donnes un billet, en fait. Et si tu ne donnes pas le petit billet, on va dire que ce n'est pas très bien vu. Donc voilà, il faut toujours avoir les poches remplies. Les gens sont assez confortables à dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais par contre, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on entend très rarement les gens qui en ont. Je ne sais pas pourquoi. Et les gens qui en ont, ils n'en parlent pas. Ce qui est aussi assez sympa dans le pays, c'est que je trouve que vu de l'extérieur, on ne voit pas cette inégalité qui est quand même assez frappante au Bangladesh. On retrouve un mélange de classes sociales qui est très présent. Et ça, c'est une des choses que j'adore dans mon pays. Voilà, un peu de promotion. Par contre, là, je rejoins Steph par rapport aux sapeurs. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est moins visible au sein de la société, en tout cas. Et c'est quelque chose que Philippe, donc de la chaîne Investir au Pays, explique très, très, très bien dans ses vidéos. Je vous invite à aller voir. Et ça dit déjà beaucoup sur le rapport à l'argent dans notre continent.
Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, les filles. Et si maintenant, je vous parle d'éducation ou de manque d'éducation financière, qu'est-ce que vous m'en dites? Et à votre avis, quel est l'impact sur notre rapport à l'argent par la suite? Steph?
Je pense que c'est un peu comme au Monopoly, hein, c'est la banqueroute. je pense que l'impact du manque d'éducation financière, c'est clairement en deux points, pas la valeur de l'argent et une mauvaise gestion, voire aucune gestion. Donc, moi, là, il y a deux exemples qui me viennent en tête et qui illustrent très bien ça. Je connais des personnes donc, qui viennent de familles modestes, qui n'ont pas eu d'éducation, mais qui ne s'y intéressent pas du tout. Parce qu'on peut, on peut choisir de s'y intéresser, hein, mais ils ont fait le choix de ne pas s'y intéresser du tout. Et on fait le choix aussi de vraiment dévaloriser l'argent en le claquant comme si c'était des feuilles qui tombent des arbres, j'ai l'impression.
Si seulement.
Donc, il n'y a pas de valeur de l'argent. Ça incombe donc une mauvaise gestion. Ils se retrouvent donc souvent en difficulté financière, mais grande difficulté. Hein, donc, endettement, fichier à la Banque de France. Ils ont du mal à être autonomes. Et deviennent des poids pour leur environnement, famille, amis. Et un autre cas qui illustre, mais vraiment un autre extrême, ce sont des personnes issues de familles aisées, mais qui ne parlent jamais d'argent. Et bien ces personnes, en fait, comme elles ne savent pas trop quoi faire, elles s'y intéressent pas, donc elles thésaurisent. Et elles se retrouvent avec des sommes mais hallucinantes sur leur compte courant. Et je parle de l'ordre de 10, 15 ou 20 000 euros sur leur compte courant. Enfin, c'est hallucinant.
C'est énorme,
c'est hallucinant. Mais je dis des familles aisées, hein, je ne dis pas des familles multimillionnaires. Donc, enfin bref, ce n'est pas déjà avec la black card, hein, juste des familles aisées, mais on s'entend. Hein, mais comme on ne leur a pas appris, qu'ils ne s'interrogent pas et ne s'intéressent pas, bah, ils laissent la situation comme telle, sans chercher à faire quelque chose de leur grosse somme. Donc, ouais, ça peut être assez déroutant, que ce soit des deux côtés, hein, quand même, hein, que ce soit du côté très, très, très modeste qui se met dans des situations vraiment en danger, en péril. Et d'autres, bon, ils ne seront pas en danger, mais c'est un peu bête,
c'est
finalement.
C'est pas très intelligent.
C'est pas très intelligent.
C'est très intéressant ce que tu nous dis. Et puis, je pense que ça montre aussi les résultats qui ressortent aussi de la société dans laquelle on vit, avec des inégalités, effectivement, de personnes qui n'ont pas assez d'argent et qui, en plus, ne savent pas le gérer, et d'autres qui en ont, mais qui ne savent pas le gérer non plus. Mais c'est quand même un peu révélateur aussi de la société. Est-ce que je le dis, les filles, ou pas ? Capitalisme dans laquelle on vit. Maï, toi, si je te dis impact ou pas, justement, du manque d'éducation financière, qu'est-ce que tu m'en dis ?
Alors, pour moi, le manque d'éducation financière, clairement, ça peut emmener à l'endettement, le fait de vivre au-dessus des moyens, de nos moyens. Ça peut aussi emmener à la charge mentale supplémentaire. Je pense que déjà, on a assez de choses à gérer dans le quotidien. Et si on rajoute aussi des histoires d'argent, ça peut emmener à la dépression, l'impact aussi sur la confiance en soi. Je pense que voilà, ça peut engendrer tout ça. Donc, je n'ai aucun doute que l'éducation financière est quelque chose... c'est un problème mondial. Donc, je pense que tout le monde peut apprendre quelque chose de là. Mais la question, c'est quelle est la solution ? Comme tout, je dirais que l'éducation commence à la maison. Donc, je pense que les parents, ils peuvent aborder des sujets assez simples liés à l'argent aux enfants. Je ne sais pas, par exemple, dès le jeune âge, commencer à leur inculquer la gestion de l'argent par rapport à leur pocket money, j'allais dire, mais par rapport à leur argent de poche. Sinon, pourquoi pas, le gouvernement aussi pourrait peut-être faire quelque chose. Par exemple, introduire dans l'éducation, dans le programme scolaire, un peu d'éducation financière ou quelque chose de ce genre. Enfin, je jette les sujets un peu dans la mer comme ça, mais je pense que il faut un travail déjà au sein de la famille et pourquoi pas au sein de la société aussi. Là, c'est quelque chose qui nous sera utile de toute façon. C'est des connaissances qui nous suivra et qui nous sera utile jusqu'à la fin de nos vies. Et c'est quelque chose qui nous permettra aussi d'avoir une vie meilleure pour les enfants de demain. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important et malheureusement, on n'en parle pas assez.
Très bien. Merci beaucoup, Maï. Donc, effectivement, un rôle à prendre au sein des familles et au niveau, pourquoi pas, un niveau plus macro, au niveau de la société. Aurélie, alors, qu'est-ce que tu en penses ?
Déjà, ne pas savoir gérer son budget. Donc, il y a un sentiment aussi de manquer, on manque d'indépendance. Et donc, du coup, de dépendre de sa famille, de son ou sa partenaire. Du coup, de dépendre des aides sociales. Parce que... la société, donc, comment t'as dit, capitaliste, voilà.
je crois que c'est un truc comme ça.
Voilà, met ça en place. Heureusement, je ne tape pas dessus, heureusement qu'elles existent. Mais du coup, c'est un peu un cercle vicieux et on dépend de ces aides. Ça permet aussi de ne pas développer en fait, son cercle social, de se sentir un peu emprisonné dans une certaine classe. Donc tout ça, en fait, ça empêche une évolution, que ce soit personnelle ou sociale, peu importe. Et de manquer de visibilité, de ne pas se projeter. Au-delà de l'achat immobilier ou de monter une entreprise, mais le simple fait déjà de voyager, quand on pourra voyager, projets en fait, d'être bloqué parce qu'on n'a pas d'argent ou on a un mauvais rapport avec l'argent, vraiment ça emprisonne quoi. Et c'est là qu'on voit comment l'argent donne du pouvoir et comment en fait ça change notre statut et surtout notre perception de la vie. Quand on sait qu'on a de l'argent ou en tout cas on maîtrise son budget. Et on a la possibilité de se dire, je vais peut-être un peu économiser, je vais pouvoir voyager, donc déjà sortir du pays, voir autre chose, d'autres cultures ou dans un cercle social. Du coup. Enfin, ça permet vraiment une vraie évolution. Et je pense qu'il faut vraiment, enfin, moi je vous rejoins, enfin, sur le sens où il faut vraiment une éducation financière, il faut la commencer vraiment plus jeune âge.
Plus jeune âge.
Vraiment qu'on donne en fait cette consistance en fait à l'argent, voire déconstruire, décoloniser nos croyances. Et donc voilà. Donc moi je conseille un petit bouquin qu'on peut trouver dans les développements personnels, etc. Donc moi c'était Oser devenir riche de Nathalie Cariou. Et du coup, il y a des petits exercices à faire au quotidien pour vraiment en fait, enlever toutes ces croyances limitantes.
Très bien, extrêmement intéressant. Alors, on pourrait continuer à en discuter pendant des heures. Le sujet mérite d'être creusé. Alors, très rapidement, justement, sur la question de l'éducation financière, pour les parents qui pourraient nous écouter, et notamment pour les parents d'adolescents, on vous recommande fortement la plateforme Khalis, donc qui veut dire argent en wolof, qui a été fondée par Diana Brondel. Et qui a été pensé justement pour permettre aux parents d'accompagner les adolescents vers l'autonomie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus là-dessus. Avant de passer à la deuxième partie de notre débat, on vous propose une petite pause musicale en compagnie de Burna Boy, l'artiste nigérian, et son titre Dangote, qui traite de la débrouille, qu'il faut gagner de l'argent pour s'en sortir, chercher l'argent et ne pas s'endormir. C'est parti.
It's Kelpie Vibes. Dangote, 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 see the fame on you. I know they sleep on the money. Who happy, who happy, where make I no go fame on you. I know they send any but you. Me at the house you call on Jack. Make you hustle my luck. I know be your lord, I know be baller. Oh, I'm a to baller fucker. I go show you my color. She want to pay me a lot baller. Let me go more, yeah, I want baller. They matter plenty, I know me only sutter. Oh, no, no. You're gonna listen well. When I dey strive and I dey hustle. Wetin I dey find, Kaluba I dey find. When I dey move from place to place, wetin I dey find, na di dollar I dey find. And I don't do yes, 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 yes. And many people don't tell me no, 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 no. Money lati lowo, di don don. Story I me a be mother, yeah. Is it because I dey do I'm for love? If I get the cash, I go tell you love, papa. I go give you cash, I go be your sponsor. Money I me a be mother, yeah. Is it because I dey do I'm for love? If I get the money, you go know. Till I go out to that kingdom come. Because, Dangote, 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 see the fire money. I know they sleep on the money. Who I be? Where make I no go find money? I know they send anybody. Me at the house you come on chaka. Make you house you my locker. I know be your lord, I know be baller. Oh, I'm a to baller fucker. I go show you my color. She want to pay me a lot baller. Give me ganga more, yeah, I want baller. They matter plenty, I know me only satan. Oh, no, no. Me gone gone, I'm a dancer. Happy you forget, say happy the gaga. Oh man, gone gaga, lori gaga. Oh man, gone gaga, lori gaga. Very low, I can be. Very young, gaga, no, no, gaga. Bami, no, gaga, yeah.
Find money, why me no go find money? Oh, find money. They look at the find money, oh. They look at the find money. Why me no go find money? Find money, find money. Why me no go find money?
Si, not.
Vous êtes toujours en compagnie d'Aïssatou, des Impertinentes sur Prune 92 FM. Et aujourd'hui, avec mes super co-hosts, Maï, Steph et Aurélie, nous vous parlons de notre rapport à l'argent. Alors après une première partie de discussion durant laquelle nous avons échangé de l'impact de notre éducation ou manque d'éducation financière au regard de nos cultures d'origine, pour cette deuxième partie, on vous en parle au prisme de notre genre et, tadam, de l'argent dans nos couples. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Je pense que nos auditeurs et auditrices, par contre, ne sont pas prêts. Alors, si je te dis femme et argent, que me dis-tu, Aurélie ?
Alors, femme et argent, c'est des problèmes. On a écouté, pour préparer cette émission, toute une série de podcasts qui s'appelle « Rends l'argent ». Et du coup, je suis tombée sur un épisode où, en fait, j'ai appris, par exemple, qu'une femme a pu ouvrir un compte bancaire, donc seulement si elle était mariée, déjà, premier point, en 1965. Enfin, genre, c'était hier, en fait.
Non, mais c'est extrêmement choquant.
C'est l'abolition du code Napoléon, où, en fait, la femme était une éternelle mineure qui était sous la tutelle de leur mari. Déjà, là, je suffoque. Donc, du coup... on va le dire, donc dans cette société capitaliste et patriarcale.
Merci pour ce miel dans mes oreilles.
De toute façon.
Là, en fait, c'est un exemple typique de qu'on voit comment cette société, elle a été créée par les hommes pour les hommes, quoi. Et du coup, déjà, si on n'a pas une éducation financière déjà toute jeune, en plus, t'es une femme, donc t'as un très très mauvais rapport avec l'argent. Comme on a dit, si on en parle trop, on passe pour une femme vénale, qui aime l'argent, etc. Et si on n'en parle pas, bah forcément aussi la radine et que du coup, c'est la femme qui n'est pas généreuse. Donc, ça va aussi à l'encontre des symboles qu'on peut faire. Donc, je ne sais pas trop. Moi, je suis en plein dedans. Donc, je suis en train de me poser la question et de changer mon rapport avec l'argent. Surtout qu'en plus, là, j'ai une fille. Donc, je voudrais quand même lui donner les bons tips pour pouvoir avancer.
Carrément.
Il y a également aussi le podcast « Les couilles sur la table ». Qui explique en fait aussi pareil comment cette société elle rend les femmes dépendantes de à chaque fois de réclamer son dû sur le travail ménager, le fait que pareil moi je le vois maintenant avoir un enfant bah du coup on est obligé d'adapter son travail etc.
C'est lourd.
C'est très très lourd et puis en fait il y a beaucoup de choses à faire là.
Et vous les filles qu'est-ce que vous en pensez ?
Je rejoins aussi le choc hein, que tu as eu Aurélie. En fait, à la date, enfin en 65, pour l'ouverture d'un compte pour une femme, enfin je trouve ça extrêmement choquant.
Une femme mariée.
Oui, une femme mariée en plus, t'as raison. Et en fait, moi je vais juste résumer une infographie que j'ai trouvée avec quelques dates assez importantes. 1881, donc une femme mariée peut ouvrir un livret de caisse d'épargne sans l'autorisation de son mari. Un livret de caisse d'épargne, d'accord. 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. Attention.
Super.
46. Disparition de la notion de salaire féminin, à travail égal, salaire égal. Ok, enfin, quand même.
Surtout qu'on n'y est toujours pas en 2021.
Non, ouais. 65, comme Aurélie a dit, voilà, donc indépendance financière. Donc, une femme peut ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Et enfin, en 67, les femmes sont autorisées à entrer à la Bourse de Paris et à spéculer. On vient quand même de loin, il y a encore des efforts à faire par rapport à ça. Ça, c'est côté historique et société. Après, voilà, pour rentrer plus côté société, je trouve que l'image de la femme et l'argent... Je trouve que c'est encore triste. On peut se faire tellement vite juger, en fait. Si on parle d'argent, si on est un peu coquette, si on aime bien les jolies choses, on peut très, très vite se faire cataloguer de vénale, d'intéressée, etc. Donc, en fait, je trouve ça parfois injuste. Je pense que la société est très injuste envers les femmes. Je pense aussi parfois très injuste envers les femmes noires aussi.
Il faut le dire.
Ouais. Qui veulent s'en sortir et on peut être jugé encore plus facilement quoi.
Tout à fait.
C'est terrible.
Tout à fait.
C'est compliqué de trouver ce juste équilibre aujourd'hui et je pense qu'il y a encore des combats à mener.
Oh oui. Et Maï, toi alors si je te dis femme et argent, qu'est-ce qui te vient en tête spontanément ?
Alors spontanément, pas grand-chose en fait. Mais par contre, ce qui me que je trouve assez triste en fait, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc la date 1965, j'avoue que ça marque quand même un peu. Parce que ça voudrait dire que c'est à peu près une soixantaine d'années.
Ouais, oui, c'est hier.
C'est ça, c'est hier. Quoi. Ouais. Et c'est hyper... comment dire, c'est quand même... Ça explique plus ou moins directement notre rapport aussi à l'argent aujourd'hui. Nous, en tant que femmes, on nous dit qu'on fait beaucoup de shopping, on est dépensières, etc. Mais je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir creuser aussi d'où ça vient. Et bah, la date, elle dit tout, en fait. Mmh. Donc, voilà, 1965, c'est juste l'année où on t'autorise et t'es livré à toi-même avec l'argent. Donc,
sans éducation financière.
Donc, tu commences.
Et le chemin est encore long.
C'est ça.
Et si maintenant, on en parle à l'échelle de... du couple, du ménage. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que argent et couple font bon ménage ?
Moi, personnellement, non.
C'est cash, au moins, c'est dit.
Oui, non, je trouve. De manière générale, je pense que ça ne fait pas bon ménage.
Surtout qu'on sait que l'argent, c'est 10%. C'est la cause de 10% des divorces.
C'est ça. Tu connais ta personne. Si tu sais que tu es avec quelqu'un qui dépense, etc. Enfin, il faut être juste très clair dès le début. Après, moi, je regarde juste dans mes anciennes relations. Souvent, c'était moi qui gagnais soit un peu plus ou qui était un peu ce qu'on appelle la maîtresse de l'argent.
C'est beau comme titre.
Donc, du coup, à gérer, mais ça fait aussi une grosse charge. Donc, il y a une grosse gestion, gros budget, etc. Enfin, là, c'est un peu plus stable. Surtout, en fait, maintenant que j'arrive à être maman, donc, en fait, ça m'a permis aussi de voir dans le couple comment adapter un budget. Parce que du coup, avoir un enfant, deux même... C'est un budget qui s'adapte tous les mois.
Tout à fait.
Et c'est jamais pareil. Donc, c'est hyper difficile d'essayer de vraiment dire « Ok, ce mois-ci, c'est ça, ça, ça. » Et en fait, de se caler sur un modèle. Il faut toujours, du coup, l'adapter. Et je vais en profiter, en fait, parce qu'en plus, je suis avec quelqu'un qui est assez généreux.
Tu veux faire passer un message ?
Ouais, c'est un peu un acheteur compulsif. Donc, doucement. 2021, fait doucement.
Très bien. Le message est passé et je pense que monsieur se reconnaîtra.
Voilà.
Steph, si je te dis argent et ménage, qu'est-ce que tu me dis en quelques mots ?
On discutait beaucoup de la répartition des charges dans un ménage dernièrement. Et après avoir écouté donc, le podcast dont on a parlé, qui s'appelle « Rends l'argent » de Titou Lecoq, puis vu certaines idées d'une Instagrammeuse Aimée Renaud. Donc le compte, c'est « Coolest Girls Are Green ». Donc, qui a fait des propos qui ont fait un peu polémique. Je vais vous donner un petit extrait. Hein. Elle nous dit, voilà, ça fait 7 ans qu'on est en couple et on n'a jamais fait moitié-moitié ou en pourcentage des revenus. Il paye tout et je ne paye rien pour que je puisse cumuler du capital et réduire les inégalités entre nous. Point. On n'a jamais pensé en termes de revenus, mais en termes d'économie, c'est normal. Bon, après, elle passe à tout ce qu'elle peut lui apporter, etc., de manière quotidienne, socialement, etc., bref. Bon, elle s'est faite trash-talker, mais en fait, moi, je trouve qu'il y avait en fait, du vrai. Ça m'a énormément questionnée. En fait, ça donne à réfléchir sur les principes d'égalité et les principes d'équité. Je trouve que si on parle d'égalité dans un couple, chacun doit mouiller le maillot à part égale. Mais est-ce qu'on peut parler d'égalité sans parler d'équité ? Bien sûr qu'une femme peut faire ce qu'un homme fait, OK, il n'y a pas de débat, mais est-ce qu'il y a vraiment une équivalence ? On parle, si on veut parler d'égalité, d'inégalité, ben en fait, il faudrait d'abord qu'on se concentre au niveau de l'équité. D'abord, à notre niveau à nous, l'un peut être né avec plus d'avantages et de privilèges. Est-ce que par amour et altruisme, il ne peut pas essayer de rendre l'équité au niveau déjà du couple, du ménage ? Je pense que les autorités ne peuvent pas tout faire pour tout rééquilibrer. Je pense que ça peut déjà passer à notre niveau à nous. Quoi.
Extrêmement intéressant. Alors, on vient de toucher du doigt un sujet formidable. Mais Maï, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Argent, bon ménage ou pas, d'ailleurs, dans le couple ?
Very good question. Moi, je pense que si on est en couple avec une personne qui nous ressemble, surtout dans tout ce qui concerne l'argent, ça aide vraiment beaucoup. Mais si jamais notre better half a des tendances qui ne nous ressemblent pas du tout, alors là, ça peut potentiellement créer beaucoup, beaucoup de friction, surtout quand c'est des sujets liés à l'argent. Pour moi, le plus important, c'est vraiment que chacun comprenne son rapport à l'argent pour justement mieux gérer la question de l'argent au sein du couple.
Très bien, merci beaucoup. Le sujet est hyper dense et clairement, on pourrait y passer des heures tant il y a à dire. Les filles vous l'ont dit, mais on vous recommande vraiment d'écouter les podcasts « Rends l'argent » de Titou Lecoq, « Les couilles sur la table » de Victor Thuaillon, épisode « Le patrimoine, enjeu capital » et enfin le bouquin « Le genre du capital » de Céline Bessière et Sybille Golac. On vous propose de passer rapidement donc à notre dernière partie qui est constituée de l'interview de notre expert du jour et on est ravis que vous soyez toujours en notre compagnie.
Les impertinents, l'émission douce et épicée qui s'attaque au sujet qui touche notre société tous les derniers samedis du mois de 13h à 14h sur Prune 92 FM.
Alors, pour aller encore plus loin justement sur la question de notre rapport à l'argent, aujourd'hui, on reçoit notre expert Louis Serica, responsable commercial au sein de l'entreprise Plénit Finance. Plénit Finance, qui est une entreprise de coaching budgétaire cofondée par Cédric Dufour et David Béniguet en 2010. Bonjour Louis, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour l'émission Les Impertinentes.
Bonjour.
Bonjour Louis. Alors la première question, c'est qu'est-ce qu'un coach et pourquoi fait-on appel à vous ?
Alors, un coach, alors je précise coach budgétaire, hein, puisqu'il y a des coachs dans beaucoup de métiers. Donc, le coach budgétaire, il va intervenir sur plusieurs composantes. On va premièrement aider les personnes à régler des problèmes financiers, parce que souvent, les gens, quand ils viennent vers nous, ils ont des problèmes de découvert, de dette, de dépenses compulsives ou autres. Donc, ça c'est la première chose, on va les aider effectivement à régler leurs problèmes financiers. On va aussi effectivement aider les gens à leur donner de l'autonomie financière et bien sûr on va les former pour ça. On va leur apprendre aussi souvent à épargner. Je ne dis pas que c'est un vrai métier d'épargner, mais en tout cas il y a des techniques pour pouvoir et pour savoir épargner. On va effectivement aussi, et ça c'est important pour nous en termes de coaching, en tout cas chez Plénit, c'est de remettre plus d'humains dans le monde de la finance, alors finance avec un grand F, mais aussi avec la proximité financière et avec les différents intervenants aujourd'hui qui existent. Et puis la dernière chose et la plus importante pour nous, et je dirais que c'est l'objectif final, c'est d'apporter de la sérénité financière à nos clients.
Très bien, merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Pourquoi, globalement, nous manquons d'éducation financière, selon vous ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Faut juste déjà resituer les choses. C'est qu'on n'apprend pas à gérer un budget. Quand vous prenez une voiture, vous devez passer un permis de conduire. Vous devez apprendre des codes, et la manière de piloter votre ou de conduire votre voiture. En gestion budgétaire, on va dire, ça se fait d'une manière très empirique. Il n'y a pas ou très peu d'éducation à ce niveau-là. Et généralement, on sait gérer son budget en ayant vu ses parents fonctionner, ses amis, peut-être son conjoint. Mais tout ça est très empirique et on ne nous apprend pas des règles précises, sauf à faire une démarche vraiment personnelle. Donc effectivement, ça vient déjà de là. Et ça vient aussi de croyances. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de croyances sur l'argent. Alors ces croyances, elles sont aussi liées à notre monde et surtout à nos religions. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous allez avoir une image de l'argent qui a été projetée par la religion. Et ces croyances, effectivement, peuvent être différentes, par exemple, entre le monde catholique et le monde musulman. Parce qu'effectivement, qui a été dit dans ces types d'ouvrages est différent. Donc ça, effectivement, c'est important. Et puis, vous avez l'éducation de tous les jours que vos parents vous donnent et vous avez vu vos parents, vous avez vu votre environnement fonctionner avec l'argent. Et vous êtes créé des croyances et vous pensez que l'argent, ça peut être peut-être tabou parce qu'on n'en parlait pas à la maison. Vous pouvez peut-être penser que l'argent, ça se dépense et puis quand on n'en a plus, on s'organise. Parce que vous avez vu des modèles. Donc en fait, aujourd'hui, on a surtout un résultat d'éducation, de vision, de croyance, d'éducation, et puis aussi la société qui émet une certaine image et donne des informations sur l'argent. C'est-à-dire que l'argent tout puissant, c'est la réussite, vous allez aux États-Unis, vous avez de l'argent, c'est synonyme de bonheur, c'est synonyme de bien-être et de réussite. Et après, en fonction des cultures et des civilisations, vous avez un rapport à l'argent qui est différent. Mais tout ça fait que, effectivement, on peut avoir des problèmes avec l'argent parce qu'on n'a pas été armé pour affronter tout ça.
Très bien, merci beaucoup.
Merci pour votre réponse. Et donc, la prochaine question, c'est est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir financier des Français ?
Alors, optimiste, je vais dire oui parce que si vous étudiez un petit peu les chiffres, les Français sont les personnes en Europe qui épargnent le plus. Donc, même s'il n'y a pas énormément de culture financière, il y a des bons réflexes. Alors, malheureusement, peut-être, je dirais, il y a eu deux guerres mondiales qui ont fait que les Français ont été habitués aussi à la disette et à se dire « il faut que je me prémunisse du futur ». Donc, je dirais qu'en termes d'anticipation, je ne suis pas très inquiet. Le Français est quand même quelqu'un de raisonné et qui sent ou qui pressent certaines choses. Maintenant, le vrai challenge, ça va être par rapport à notre modèle économique, par rapport à la société financière. Parce qu'effectivement, si on s'oriente vers une nouvelle crise, comme on a pu les connaître, 2008 ou même 1929, mais là, effectivement, une crise sanitaire qui va se transformer en crise économique, je dirais que là, on peut être peut-être un peu moins optimiste parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout, les Français ne maîtriseront pas forcément. Si demain, vous avez le taux de chômage qui monte à 20%, c'est pas de la fête d'une mauvaise gestion des Français. C'est une situation qui va les amener dans des complications financières avec le fait de devoir les aider. Alors les aider à tous les niveaux. L'État le fait aujourd'hui en finançant beaucoup de choses, mais aussi, on le sait, quand on a un budget, ben vous avez un budget, quand tout va bien, vous êtes habitué. Et puis, ça va secouer, ça va remuer, ce budget va être complètement secoué aussi, et là, il va falloir effectivement s'adapter. Et des professionnels comme nous, on peut effectivement accompagner les gens pour les aider à retrouver un autre équilibre budgétaire. Parce qu'en fait, l'équilibre budgétaire, il change tout le temps. Donc, quand vous avez trouvé, je veux dire, une vitesse de croisière, ben, s'il y a des événements qui viennent perturber ce budget, vous pouvez avoir besoin d'aide.
Très bien. Alors, extrêmement intéressant et merci beaucoup justement pour cette insight un peu sur le futur. Alors, très rapidement, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Plénit Finance, si on souhaite faire appel à vos services?
Alors, Plénit Finance, on a un site internet, Plénit Finance, où vos auditeurs peuvent retrouver beaucoup de ressources, beaucoup d'informations. Et après, s'ils souhaitent aller plus loin, bah, effectivement, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Et on va leur proposer ce qu'on appelle un audit financier, c'est-à-dire qu'on va effectivement faire une étude complète de leurs finances, leur faire un diagnostic et leur proposer des recommandations et une stratégie pour les accompagner. Alors nous, l'accompagnement hein, chez Plénit, ça ne se fait pas en une fois. On est sur une première séquence en tout cas de 6 mois, où on va les accompagner, on va les former, on va les aider à faire les bons gestes pour avoir des résultats. Et bien sûr, on s'engage sur des objectifs à atteindre au bout de ces 6 mois.
Merci beaucoup, Louis, pour cette première partie d'interview et surtout d'avoir éclairé nos lanternes au niveau des impertinentes. On est ravis d'avoir eu ce petit insight. Et justement, on est tellement ravis qu'on prolonge en fait le plaisir. De nouveau avec les impertinentes pour la deuxième partie de cette interview. Le sujet est tellement intéressant qu'on avait envie de creuser avec vous justement par rapport aux quelques points qu'on a évoqués. Donc pour vous représenter très rapidement, vous êtes le responsable commercial de Plénit Finance et également coach budgétaire, donc une profession que vous nous avez présentée tout à l'heure. Et pour aller justement un petit peu plus loin sur ce sujet, on poursuit.
Alors Louis, pour cette question, donc quel est l'aspect sur lequel vous travaillez le plus avec vos clients ?
Alors, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, les gens viennent souvent vers nous pour des problématiques réelles et existantes. Alors, on va dire, un des éléments, par exemple, c'est le découvert bancaire. C'est sûr que des gens qui sont régulièrement en découvert, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et à boucler leur budget, bah, ils ont une démarche, effectivement, de venir vers nous pour les aider. Mais ça peut être aussi, et nous, on les découvre lorsqu'on fait les diagnostics, ça peut être un problème d'endettement, des gens qui ont trop d'endettement. Donc, il y a des techniques financières qui existent, comme ce qu'on appelle des restructurations et des regroupements de prêts. Donc ça peut être effectivement des choses qu'on peut conseiller aux clients. Mais c'est surtout, en premier temps, c'est un déséquilibre du budget. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, on a aussi des gens qui n'ont pas forcément de problématiques financières, mais qui ont envie d'être accompagnés, qui ont des projets financiers, qui voudraient plus épargner. Ils entendent parler de liberté budgétaire, d'indépendance financière. Donc c'est toutes des notions, effectivement, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui tentent les gens. On a l'impression qu'on peut juste rester dans son canapé et puis l'argent va venir à nous. Voilà, donc ils viennent vers des professionnels pour comprendre un petit peu mieux toutes ces pratiques.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits tips, en fait, comment gérer son budget et pourquoi c'est important ?
Bien sûr, c'est important. Il faut juste imaginer qu'un budget, c'est quelque chose de fermé. C'est-à-dire que vous avez des revenus, peu importe ces revenus, que ce soit du salaire, même pour un indépendant, le fruit de son travail. Il est fermé, c'est-à-dire que si vous avez un revenu de 3 000 euros, vous avez un revenu de 3 000 euros. Donc, il va falloir que l'ensemble de vos dépenses et de vos charges rentrent dans ce budget-là. Donc, l'exercice, effectivement, c'est de se dire, je fais en sorte que ce qui rentre et ce qui sort soit la même chose. Et nous, chez Plénit Finance, on a ce qu'on fait tous les mois, un budget base zéro. Donc, la première recommandation que je pourrais faire aux personnes, c'est déjà regarder votre budget. Regardez deux fois ses comptes dans le mois, ce n'est pas suffisant, vous ne maîtrisez rien. Alors, vous le faites au feeling, vous dites oui, je pense que je devrais arriver à peu près, mais vous arrivez en fin de mois et vous comptez le résultat, donc soit effectivement les dégâts ou vous êtes agréablement surprise parce que votre compte est positif. La budget base zéro, c'est de se dire, moi, si j'ai 3 000 euros de salaire dans le mois, il faut que, alors pas que je dépense ces 3 000 euros, mais que je tienne avec ces 3 000 euros et si je veux faire de l'épargne, que ça rentre dedans. C'est-à-dire que ce qui est avant, le plus ou le moins, avant ces 3 000 là, il doit être retiré pour l'instant dans l'analyse et ne pas en tenir compte, parce que vous avez des gens qui vont dire, bah tiens, moi j'ai 3 000 euros, puis qui vont commencer le mois avec 2 000 euros parce qu'ils avaient 1 000 euros de découvert. Et là, vous n'arriverez pas à trouver la solution. Donc regardez, ça, premier conseil, regardez et puis vous occupez de votre argent et de votre budget. Si je devais faire une recommandation, c'est celle-là.
Merci beaucoup, Louis.
Très bien. Très intéressant. Alors, lorsqu'on a préparé un petit peu cette interview, et je pense que les questions justement qui vont arriver par la suite vont un petit peu aller dans ce sens-là, vous nous aviez, en tout cas, on a eu à échanger de l'histoire de l'argent et comment est-ce que justement notre rapport à l'argent peut aussi influencer notre développement personnel. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus et justement quelle va être la spécificité de Plénit Finance sur ce sujet ?
Alors, il y a deux choses. Hein. Bon, l'histoire de l'argent, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'argent, de la Renaissance, le nom même banque, hein, qui vient de banca en italien, qui était le banc où les gens qui avaient besoin d'argent et ceux qui en prêtaient s'asseyaient à Florence sur un banc pour s'échanger l'argent. Voilà, donc. Mais ça, sur l'historique, vous avez aussi les Templiers, hein, qui avaient des commanderies et qui permettaient aux pèlerins de traverser la France, l'Europe, le Moyen-Orient sans argent, de le laisser à une commanderie en France et de le récupérer. Donc voilà, c'était le système du dépôt. Donc ça, c'était les bases bancaires qui ont fait qu'effectivement, aujourd'hui, une banque, la fonction, c'est effectivement vous déposer de l'argent ou elle vous en prête. C'est-à-dire que si vous n'en avez pas, elle crée de la monnaie. Hein. C'est comme ça qu'on crée de la monnaie en France et d'ailleurs partout dans le monde. Hein. C'est en faisant des crédits aux gens, en prêtant de l'argent qui n'existait pas. Donc, vous voulez acheter une maison, on va vous créer de l'argent pour vous et cet argent, après, va circuler dans l'économie. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on crée tout le temps de l'argent, mais c'est la seule raison de créer de l'argent. On ne crée pas de l'argent, ce qu'on appelle la planche à billets, qui est un mythe, hein, mais on ne crée pas de l'argent comme ça. Il faut qu'il y ait un besoin derrière et une demande d'un particulier ou d'une institution. Donc voilà, donc ça pour l'historique. Alors après, l'historique, je vous en avais un petit peu parlé, hein, et le rapport qu'on a à l'argent, bah, effectivement, il est lié par rapport à notre éducation, par rapport aux religions, donc ça, c'est important. Nous, chez Plénit, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre. Alors, on est quand même dans une culture judéo-chrétienne, donc alors on peut être catholique, on peut être protestant, et on sait qu'il y a aussi des aspirations et des approches différentes de l'argent. Mais au-delà de ça, nous, comme je vous disais, quand on fait un audit, on va effectivement essayer de comprendre les problématiques des personnes, leur éducation ou leur culture financière, ça c'est important, et leurs croyances. Et ça c'est surtout très important, les croyances qu'on a par rapport à l'argent. On a tous des croyances par rapport à l'argent, on a tous projeté des choses sur l'argent, mais c'est des projections. La réalité c'est que l'argent c'est un flux, pour la plupart aujourd'hui matériel, mais c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais, ça sert juste à faire des échanges, c'est un outil. Et à partir du moment où vous avez des croyances et vous mettez l'argent et vous la mettez à un autre endroit que pour la raison pour laquelle elle a été créée, eh ben vous avez des distorsions et là vous commencez à avoir des problématiques avec l'argent. Hein. C'est ma réussite, ma symbolique, c'est j'ai de l'argent. Alors j'ai de l'argent ou ce qui traduit. J'ai une Porsche ou j'ai une très belle voiture, bah, effectivement, c'est une notion de réussite. Et puis, vous pouvez avoir des gens qui sont très heureux et qui ont réussi, et puis, ils ne le projettent pas par rapport à l'argent. Donc, c'est ça. Mmh. Il peut y avoir des phénomènes de manque. Vous pouvez dire, bah, je manque d'argent. Je peux avoir des gens qui ont 10 000 euros par mois et qui manquent d'argent.
Tout à fait.
Donc, ce n'est pas antinomique. Donc, voilà. Donc, c'est surtout comment on est fabriqué, voilà, et surtout ce qu'on projette sur l'argent.
Très bien. Vraiment dans cet esprit de déconstruction et puis trouver un moyen de se réconcilier, on va dire, en quelque sorte, à l'argent, quoi. Très bien.
Ah bah, je sais que, oui, nous quand on fait des coachings, alors souvent on fait des coachings à deux, quand c'est un foyer avec deux personnes, la personne et son conjoint sont là, et on va assez rapidement, on peut aller assez rapidement sur des problèmes aussi psychologiques ou de rapport à l'autre, ou de rapport aux autres par rapport à l'argent. Donc nous, on reste sur notre sphère coaching budgétaire. Si vraiment on se rend compte qu'il y a des pathologies, comme l'oniomanie, c'est une maladie qui est l'achat compulsif. Ben, l'achat compulsif, on peut mettre des stratégies en place budgétaires pour effectivement éviter. Si vraiment c'est une addiction, si c'est plus fort que la personne, ben là on va l'orienter vers un psychologue, vers des thérapeutes, hypnothérapeutes ou autres, pour régler peut-être son problème. Donc vous voyez que ça, c'est un reflet. Dites-vous que l'argent, c'est un reflet de ce que vous êtes et ce que vous faites.
Est-ce que vous pensez, j'ai juste une dernière question, et puis je pense qu'après on va pouvoir boucler. Est-ce que vous pensez que l'argent, c'est de l'énergie pour vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait, tout à fait. Alors bon, c'est vrai qu'il y a, toute une branche sur les réseaux sociaux qui parle effectivement, mais soit on se dit que tout est énergie et l'argent est une énergie comme une autre, et cette énergie, c'est pour ça que je parlais de neutralité. c'est une énergie neutre. Ça dépend, si on pense qu'on a un pouvoir sur l'énergie, ben ça dépend comment on va influer sur cette énergie. Ça dépend si effectivement on est capable de l'attirer ou de le repousser. Mmh. Donc effectivement, il y a des techniques pour pouvoir attirer l'argent et le repousser. Là aussi, il n'y a pas de fatalité. On peut se dire, bah, les gens qui sont riches, c'est pas pour moi, etc. Ouais. Tout le monde peut être riche demain. Quand je dis tout le monde peut être riche, il y a des méthodes. Il peut y avoir peut-être ce qu'on appelle la chance ou le hasard n'existe pas. Bon, après, c'est tout un débat. Mais en tout cas, il y a des techniques pour pouvoir effectivement attirer l'argent. On a ce qu'on appelle les revenus passifs et les revenus actifs. Ceux qui sont très riches ont beaucoup développé les revenus passifs.
Passifs, tout à fait. C'est extrêmement intéressant et je pense qu'on pourrait y passer des heures et des heures en tout cas.
Ah oui, c'est un sujet...
À vous écouter. En tout cas, on est...
Surtout sur la partie comment devenir riche.
Pour terminer, on a une dernière question pour vous, une question bonus. Qu'est-ce que c'est l'impertinence pour vous ?
Alors l'impertinence, pour moi, je l'associerais à de l'insolence. C'est-à-dire effectivement, pour moi, ça peut être, on va aller dépasser des tabous, on peut aussi réveiller les consciences. Alors c'est être en dehors des normes, mais voilà, avec aussi, et sortir un peu des fois de la bien-pensance et de regarder les choses autrement. Et ça, dans notre société aujourd'hui, on en a vraiment besoin. De sortir d'un discours monolithique, que ce soit sur l'aspect budgétaire comme tous les sujets. Et voilà, je pense que l'impertinence, ça permet aussi d'avoir une vision différente, de porter un regard différent sur notre société, et ça, ça fait du bien.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez trouvé les très bons mots pour en tout cas résumer ce qu'on souhaitait faire passer à travers cette émission. On est en tout cas ravis de vous avoir eu avec nous pour l'émission Les Impertinentes, que vous nous ayez donné autant à voir sur ce sujet. Encore une fois, on recommande vraiment à nos auditeurs et auditrices qui seraient intéressés par le sujet donc de se rapprocher de vous via Plénit Finance et voilà, en tout cas de pouvoir vous contacter si jamais ils ont des questions et qu'ils souhaitent eux aussi pacifier leur relation à l'argent et retrouver de la sérénité. Encore une fois, merci beaucoup Louis.
Eh ben merci à vous, merci de votre accueil et puis de votre écoute. Et puis ben en espérant que voilà l'argent soit un allié plutôt que quelque chose de négatif pour les gens. En tout cas, c'est tout le souhait qu'on peut leur faire.
Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ce sujet, les filles ?
Écoute, très intéressant. En plus, c'est notre premier expert masculin. Donc, du coup, j'ai envie de les contacter, clairement.
Super.
Moi, une conclusion, c'est que, premièrement, du côté couple, je trouve qu'en tout cas, voilà, je pense qu'en tout cas, ça peut faire bon ménage les questions d'argent. Je pense qu'il faut savoir il faut trouver la personne avec qui on est sur la même longueur d'onde, idéalement, avoir à peu près la même vision et regarder dans la même horizon. En tout cas, j'avoue que j'ai la chance d'avoir un chéri avec qui voilà, ça se passe très bien et qui a aussi ce côté gestionnaire. Donc, merci. J'ai quand même, on va dire, un peu un comptable à la maison, mais qui m'a aussi fait m'intéresser et prendre en compte voilà, vraiment cette gestion-là. Donc, ça aussi, c'est une chance. Et vraiment, merci à Louis. Son interview était juste géniale. Et merci beaucoup. Et j'ai adoré sa conclusion sur les impertinentes. C'est tout à fait nous.
Tout à fait. Maïe, un dernier mot pour conclure ?
J'aurais souligné l'importance de l'éducation financière et surtout peut-être, to incite people, donc demander aux gens de creuser un peu plus sur notre propre rapport à l'argent. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup les filles pour tous vos partages par rapport à ce sujet. On va passer à la partie 3 de notre émission, la pépite. Alors, c'est bientôt la fin de notre Money Trip. Et pour finir, on arrive donc à notre pépite du mois. Pour rappel, les pépites, ce sont nos coups de cœur du moment ou qu'on l'on chérit depuis longtemps. On a envie de vous partager. Il n'y a pas de domaine en particulier, ça passe de la gastronomie à l'art, la mode et j'en passe. Et justement, pour rester dans la thématique du jour, on a choisi de vous présenter le compte Instagram et le site Mon Budget Bento. Créé en août 2020 par Maëva, une jeune femme trentenaire, Mon Budget Bento a pour objectif d'apporter des informations sur la thématique de la finance sous différents angles, comme la fiscalité, l'épargne, la famille, la vie de couple, le mindset, tout y passe. Sans langue de bois et avec un soupçon d'impertinence comme on aime beaucoup ici, Mon Budget Bento allie économie, fiscalité, Excel et humour. Et pourtant, c'était pas gagné. Maëva vulgarise de nombreux concepts qu'on aurait bien aimé apprendre à l'école.
Que le mot budget vous donne des frissons ou au contraire vous réchauffe le cœur, le compte Mon Budget Bento vous plaira. Et afin de vous aider justement à prendre en main votre budget de manière autonome, Maëva donc édite très prochainement son premier livre, Mon Budget sur pilote automatique, qui vous permettra de faire un état des lieux complet et d'organiser votre budget de façon à être serein et sereine tout au long du mois. La rumeur dit que les commandes s'envolent et les livres partent comme des petits pains. Donc n'hésitez pas très longtemps si vous êtes intéressé. En tout cas, au niveau des impertinentes, on adore. Nous arrivons déjà à la fin de ce quatrième épisode. Merci beaucoup à mes super co-hosts Maï, Stéphanie et Aurélie. C'était un plaisir de vous avoir, en tout cas, et de pouvoir échanger aussi longuement sur ce sujet.
Plaisir partagé.
Complètement partagé.
Quant à nous, on se retrouve le samedi 27 février à 13h sur les ondes de Prune, 92 FM. Notre prochaine émission s'intégrera à la semaine contre les discriminations et le racisme, dont Prune est partenaire. On vous annonce le sujet très rapidement, donc restez connectés. D'ici là, retrouvez-nous sur Instagram @lesimpertinentes, donc N-A-N-T-E-S, et le podcast de l'émission sur Mixcloud et Soundcloud. À bientôt sur 92 FM. Prune.
Bye bye. Salut.
Les impertinentes, l'émission douce et épicée qui s'attaque aux sujets qui touchent notre société tous les derniers samedis du mois de 13h à 14h sur Prune 92 FM.